Radio Maritime, c'est le jeudi de 11h à midi sur Radio Panique. 105.4.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Comment ça va?
Oui, je vais bien, merci. Et toi?
Mais ça va? Comment vous vous appelez?
Je m'appelle Yari.
Qu'est-ce que vous faites ici?
Là, je suis là au camp du CEPAS Ducle.
Est-ce que vous pouvez nous dire où on est aujourd'hui?
On est à Ucle.
Ouais. Voilà. Alors, on est dans un petit jardin.
On est dans un petit jardin.
À côté de...
À côté de l'église de Ucle.
Ouais. Est-ce qu'elle va sonner pendant cette émission?
Oui, à chaque une heure, ça sonne.
Donc, on a jusqu'à 11h avant que ça sonne, vous croyez?
Oui.
Alors, est-ce que vous savez ce qu'on va faire pendant une heure?
Non.
On vous a pas vraiment briefé, en fait?
Si, on m'a expliqué, mais j'étais tue.
Vous n'étiez pas attentif quand on vous a briefé?
Oui, sinon, j'avais même l'email, mais...
En fait, on est en direct sur Radio Panique. C'est Radio Maritime. Alors, d'habitude, on fait des émissions plutôt le long du canal de Bruxelles, dans les quartiers, à Molenbeek, à Anderlecht, mais de temps en temps... On prend notre petit studio mobile là dans le Landau et on va s'installer dans d'autres quartiers et on a l'habitude de venir à Ucle parce qu'on aime bien venir ici. Mm-hmm. Ça vous va de faire une heure d'émission avec nous?
Oui, bien sûr, ça me fait plaisir.
Alors on est un peu préparé. Mm-hmm. On n'est pas juste là à chercher ce qu'on va dire parce qu'en fait aujourd'hui on va mettre en avant différentes initiatives du quartier ou de plus ou moins le quartier. La première partie de l'émission, elle va être consacrée à un projet qui s'appelle Stéréotype. Vous avez entendu parler de Stéréotype? C'est un projet qui est porté par la Concertation ASBL.
D'accord.
Et alors qui donne la parole à plein de gens dont on pourrait croire, dont le profil nous laisserait entendre, qui nous amènerait des idées reçues sur eux. Mm-hmm. Et en fait, à travers le récit, on va essayer de casser un peu les stéréotypes, les idées reçues qu'on a sur eux.
D'accord.
Voilà. Et alors, ça fait 3 ans qu'on diffuse Stéréotypes sur Radio Maritime.
Oui.
Là, vous avez Pierrot qui est déjà venu. Ça va, Pierrot? Et là, on va entendre tout de suite le récit de Serena, qui est là. Ça, c'est Serena.
D'accord. Salut.
Voilà, on va écouter son récit. Et puis après, on va en discuter. Ça s'appelle Stéréotype et c'est de la Concertation SBL. Voilà, vous pouvez aller vous rasseoir avec le café.
D'accord. Merci.
Bah, merci à vous. C'est formidable. Ça va tout le monde?
Oui.
J'adore. C'est la première fois? Venez, venez, venez. Alors, venez vous présenter au micro avant d'écouter. Alors. Venez, 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 venez ici. Ah ben vous savez ce qui se passe, on va d'abord écouter, et pendant qu'on écoute, on va même vous expliquer tout, ça va? On écoute Serena. Mais oui.
On est en 2011, j'habite à Milan. Ça fait 1 an que j'habite avec un garçon qui est mon premier grand et vrai amour. Du coup, on habite dans ce petit appartement qu'on partage avec un copain très punk et de chien. Il fait très chaud. Mais je suis très contente parce qu'on est amoureux. On habite ensemble, c'est la liberté, on est jeune. On a l'impression d'avoir toute la vie devant nous et de pouvoir tout faire. On est beaucoup dans... Moi, j'ai commencé le théâtre. Lui, il a ouvert un centre culturel, un bar avec des copains. Où moi, je fais des spectacles parfois. C'est vraiment une période où on fait beaucoup la fête aussi. Ouais, c'est un moment très beau de ma vie. Très underground aussi, dans l'ambiance que je fréquente. J'ai cette image de moi assise sur les toilettes de mon appartement. Il faisait 40 degrés, il faisait ultra chaud. Et, et je me retrouve avec ce test de grossesse entre les mains. Au profond de moi, je savais que c'était positif, mais voilà, là, je la prouve qu'il est, effectivement. Je pleure, je ne sais pas trop pourquoi je pleure, mais c'est l'angoisse, c'est le bonheur mélangé à la tristesse, à l'inconcevabilité de la chose, surtout. Vous écoutez Stéréotypes et voici mon récit, Mère manquée. On rentre dans cette machine infernale qui est l'hôpital public en Italie sur les questions liées aux avortements et à la gynécologie en général. On rencontre d'abord une soi-disant psychologue qui nous pose plein de questions en fait, administratives et à un certain moment, il nous balance une « Vous êtes quand même conscient que vous êtes en train de tuer une vie ?» Voilà, on reste un peu figé. Et là, je me dis, en fait, j'ai la chance d'avoir quand même 23 ans et pas 17 et d'être ici avec mon compagnon avec lequel je fais un choix conscient et conjointe. Et après, il y a l'opération. À l'époque en Italie, c'était une opération faite en anesthésie générale par aspiration. Donc en fait, j'étais endormie et je me suis réveillée dans une sorte de cave. Et en ce moment, il y avait un médecin qui a eu en fait des propos et des comportements assez équivoques par rapport à moi qui était allongée sur cette lit en métal avec les jambes ouvertes. Suite à mon avortement, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop comment réagir. La question est très taboue. Moi, j'ai très peur de le dire à mes proches. Il y a beaucoup des mensonges autour de l'expérience parce que je le dis à personne. C'est comme si, en quelque sorte, j'avais décidé d'arrêter les conneries, en fait, d'arrêter de perdre du temps, de me bourrer la gueule le samedi soir et de me dire « Ok, maintenant, t'as pris un choix, t'as décidé de foncer, du coup, tu fonces. Du coup, tu mets ta vie devant, ta carrière devant et t'arrêtes t'arrêtes de perdre du temps. » Et je voulais partir. Depuis un petit moment, je voulais voir ce qu'il y avait au-delà des Alpes. Et du coup, je me suis inscrite à une école de théâtre à Bruxelles. Depuis mon arrivée en Belgique, je commence à avoir une aménorrhée qui dure 5 ans. Entre-temps, j'ai une histoire de 3 ans avec un mec espagnol. Du coup, après la fin de l'école, je ne sais plus trop bien quoi faire de ma vie. Je vis entre Milan, Majorque et Bruxelles. C'est vraiment la catastrophe. Mais toujours pas mes règles. J'essaie plein de choses. Je veux voir quelques gynécologues qui me proposent des traitements hormonaux. Mais je sens que ce n'est pas ça. Et en début 2017, je rencontre du coup mon copain actuel et je recommence à avoir mes règles. Et je commence aussi ce projet de festival féministe pluridisciplinaire. Et on s'est retrouvés une fois par mois dans un centre culturel à Bruxelles. Et ça arrive un jour que le centre culturel est fermé. Et moi, c'est juste après ma grande épiphanie sur le fait que je dois en parler. Et du coup, on est un peu pris à l'imprévu et on s'est dit, on fait quoi ? On est 30, on va dans un bar. Et on se retrouve dans un bar portugais, en plein milieu de match de foot. Donc le bar plein d'hommes qui crient face à l'écran. Et nous, on prend la grande table au milieu du bar. On est 30, on est militante, on est sûr de nous, on parle la voix haute. Et moi, je suis ultra contente, ultra empowered. Et du coup, je pose la question, qui entre vous a déjà vécu un avortement? Et là, en fait, je ne m'attends pas à la réponse si étonnant de voir une vingtaine de mains qui se lèvent sous les 30. Je suis quand même de me rappeler dans mon imaginaire que tous les hommes du bar se sont arrêtés à nous regarder, mais peut-être que c'est moi qui hallucine. Mais en tout cas, il y a eu ces moments un peu hors du temps où on s'est pris les mains et on s'est dit, en fait, on n'est pas seul. Il faut qu'on partage ça aussi. Aujourd'hui, j'ai un bon souvenir, en fait. Je crois que le fait d'avoir vécu ça m'a... Je suis très contente de ne pas avoir eu un enfant il y a 10 ans. Il y a 11 ans, en fait. Même si je crois que ma vie aurait été également intéressante, mais très différente sans doute. J'ai adoré ma vie jusqu'à présent, je continue à l'adorer. Je suis très contente d'être mère aujourd'hui. Et oui, c'est ce petit souvenir qui reste en moi et que j'aime bien partager en fait quand je peux, même si je le fais pas souvent parce que ça reste quand même quelque chose que pour moi c'est très intime. Je me surprends par contre à voir combien ça fait du bien quand j'en parle. Et je me trouve devant des femmes qui ont vécu ça et peut-être ils n'ont pas ou le temps et le moment et l'occasion de partager et ils sautent vraiment sous l'occasion. Donc je pense qu'il y a vraiment un besoin qui est là de continuer à donner un espace pour pouvoir partager ce genre d'expérience.
Ben moi, je m'appelle Pierrot, je suis venu aujourd'hui, moi je suis aussi un livre vivant, mais je suis venu écouter les témoignages d'aujourd'hui. J'ai trouvé ça très courageux de vouloir en parler de nouveau avec ces foutus préjugés qui traînent partout, notamment sur les réseaux sociaux aujourd'hui aussi. Mais je félicite aussi ce brave livre vivant qui est venu de très loin aujourd'hui pour ça. C'est... Ma fille a vécu ce genre de truc. Elle parle aussi de subir, elle parle aussi de souvenirs douloureux. Tu vois, moi, ça fait écho chez moi ton histoire. Elle m'a appelé le jour où où elle a appris qu'elle était enceinte de quelqu'un qu'elle venait de quitter. Donc, elle a pris tous les renseignements pour pouvoir subir l'avortement ici. En Belgique, c'était pas en Italie, bien sûr, c'est encore autre chose, parce que là, je crois que la mentalité est différente, d'après ce que tu as expliqué, en tout cas. Et donc, j'étais présent le jour où ça s'est passé, je l'ai vraiment épaulé, mais elle est quand même sortie, ça faisait drôle, ça faisait bizarre, quoi. Mais c'est bien que tu puisses en parler pour qu'on puisse partager justement aussi sur ce sujet. Merci de l'avoir fait. À bientôt.
Salut, si tu voudrais réagir.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Salvo pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, et moi c'est ce qui me frappe, enfin je raconterai un peu mon histoire. Ma mère m'a enfanté très jeune, je suis l'aîné d'une famille recomposée de cinq enfants, enfin de grands enfants maintenant. Dès l'âge de 6 mois, pratiquement ma mère m'a confié à une nounou. Être mère, c'est quelque chose d'inné. Et à propos de ça, à propos du choc qu'on peut avoir dans son cas suite à un avortement, Il faut savoir qu'entre mes 13 et mes 24 ans, j'ai subi le divorce de mes parents qui se sont renvoyés mutuellement la faute. Bref, des années après, en juin 79, je vais bientôt avoir 43 ans en Belgique, mon père m'a dit à plusieurs reprises, écoute, va, expatrie-toi, ici, ça va mal. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, des années après, j'ai un excellent rapport avec ma mère et avec mes frères et sœurs du deuxième mariage. Mais voilà quoi, l'amour maternel pour moi, par exemple, vis-à-vis de ma mère, il est toujours là. Je suis le bien-aimé de ses enfants.
Merci Salvo.
Qu'en quoi il y a du positif.
Ben oui.
Voilà.
Serena, est-ce que tu veux réagir déjà aux deux témoignages qui ont suivi le tien
et puis, Oui. Bah déjà, merci beaucoup pour votre écoute à tous et à toutes. Moi, je ne crois pas que l'amour maternel, c'est inné. Je pense que c'est quelque chose que c'est très individuel. Et pour moi, l'expérience de partage de ce vécu, en fait, a pris après la forme d'une œuvre artistique. Parce qu'en 2017, du coup, est né IVG, Intime Vulnérabilité Gynécologique, qui a une exposition sur l'IVG, qui récolte plusieurs témoignages audio de femmes et hommes qui ont vécu des expériences d'IVG. Car en fait, notre besoin, mon besoin, c'était d'ouvrir un espace de dialogue là où il n'était pas présent. Voilà, moi je viens d'une culture, la culture italienne, où il y a 10 ans, et encore pire aujourd'hui, l'IVG est un énorme tabou, où c'est très compliqué pour les femmes d'accéder à tout cela. Il faut savoir qu'aujourd'hui, entre les 70 et les 80% des médecins en Italie sont objecteurs de conscience, donc ils peuvent refuser d'opérer des femmes. Donc voilà, et on est dans un et on vient de voir ce qui s'est passé aux États-Unis l'année passée. C'est un droit qui n'est pas acquis, qui est en Belgique il a été dépénalisé il y a rien que 2 ans quoi. Donc c'est un acte toléré, c'est un acte qui le système médical patriarcal, désolé d'utiliser ces mots, mais nous concède d'avoir, mais que en fait il est toujours soumis à des décisions médicales et pas forcément et très fort jugé encore à niveau de l'opinion commune. Donc pour moi c'était important en fait de permettre de partager cette parole, parce que justement je pense que on n'est pas obligé d'être femme, on n'est pas obligé d'être mère, on n'est pas obligé d'être contente de l'être. Moi, j'ai vécu cette expérience avec beaucoup de douleurs, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et surtout, c'est un accident qui peut... C'est quelque chose qui peut arriver dans la vie de n'importe quelle femme, en sachant qu'on a environ 35 ans de fertilité dans notre vie. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait... Je ne dis pas à banaliser, mais sans doute à normaliser. Et moi-même, en fait, j'étais encore touchée aujourd'hui d'écouter ça, parce que je le vis encore comme je dois toujours déconstruire en fait mon sentiment de culpabilité et de honte face à cette expérience.
Enfin, ça fait combien de temps que tu as un livre vivant, puisque on va peut-être aussi reparler de du projet Stéréotype. Donc, ce sont des gens qui racontent leur récit et qui sont livres vivants. Toi, ça fait combien de temps que tu as rejoint le...
Alors, très peu.
Très peu, c'est ça. Tu as le dernier livre.
Ouais, je pense. Ouais. Ça fait un an, mais je ne fais qu'une bibliothèque vivante. Ouais. Par contre, oui, merci, parce que je voulais justement revenir à ça, parce que pendant cette bibliothèque vivante, j'ai eu affaire avec des lecteurs très différents entre eux. Notamment, il y avait une classe, je pense, ou un centre de loisirs d'adolescents, avec lesquels c'était plus dur. Et après il y a eu un homme qui avec lequel c'était un peu un partage, comme Salvo vient de parler de son expérience. Lui, il m'a parlé de la sienne et du fait que voilà qu'il avait qu'ils avaient un projet d'avoir un avortement, mais finalement ils ont eu leur enfant et c'était très très beau de voir comment en fait c'était constructif pour lui de pouvoir partager avec quelqu'un qui avait vécu une expérience similaire, mais qui finalement ça avait terminé différemment. Mmh. Mais c'était super intéressant.
Parce qu'on rappelle que le principe du livre vivant, c'est que vous arrivez dans une bibliothèque avec des livres qui sont vrais, et donc vous vous installez à une table et vous écoutez le récit, puis vous en discutez. Mélanie, peut-être un petit mot sur la semaine qui vient de se dérouler. Je ne sais pas pendant combien de temps, mais toutes les capsules stéréotypes étaient audibles dans le parcours d'artiste à Uccle. Ouais.
Voilà, tout à fait. Du coup, ces deux dernières semaines, on pouvait écouter au sein du centre culturel d'Uccle, dans un petit salon d'écoute, les 8 récits qui sont enregistrés pour le projet stéréotype. Et il y a notamment des personnes qui ont écouté ces récits dans le salon d'écoute et qui sont présentes aujourd'hui. Je vois qu'il y a madame également là-bas.
Ah ouais.
Je ne sais pas si vous avez aussi envie de dire un mot.
Excusez-moi, c'est la première fois, je me mets où je veux, comme je veux.
Ouais, comme vous voulez. Vous pouvez déjà dire bonjour.
Non, mais vous me dites comment je dois faire, comme ça, voilà. Je vais m'approcher. Bonjour, je m'appelle Monica. Donc, d'abord, je vais vous remercier de ce que vous faites. Et j'étais très touchée par ton témoignage. Et je vais à un certain moment intervenir par rapport à mon histoire. Je vais réagir par rapport à ton vécu. Mais bravo pour ton courage de témoigner. Et moi, je vais lancer des fleurs. Bravo pour mon courage. Parce que ce qui va suivre n'est pas très politiquement correct. Donc, je m'appelle Monica avec un K. Pourquoi ? J'insiste sur le K parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de blagues dans ma vie concernant ma personne. Donc, quelqu'un que j'adore, Pierre Perret, qui a fait la chanson Lily. Vous connaissez ?
Bah oui.
C'est une personne, c'est vraiment déjà 40-50 ans cette chanson, une personne qui venait de l'étranger, qui était manifestement d'une couleur qui n'était pas autochtone et qui a vécu des choses difficiles. Et puis finalement, elle est partie aux États-Unis où là, sa couleur de peau était la couleur de l'amour et elle s'est fait copine avec une certaine Angela Davis. Bon. Ça, c'est pour revenir sur la chanson de Lily et sur une de mes personnalités préférées, c'est-à-dire Pierre Perret, qui a dit à un certain moment, à l'époque, dans les années 70, donc, ou 80, mélangez-vous, comme ça, on ne saura pas sur qui taper et vous aurez la paix. Mmh. Eh bien, moi, malheureusement, je suis hyper mélangée, mais quelque chose de pas possible. On ne sait pas dire d'où je viens, qui je suis exactement, je suis très difficile à cerner et ça me joue des tours d'un côté ou de l'autre. Mais disons que moi, je pense que le fait que l'autre ne peut pas te cerner, ça te permet, toi, quelque part, de te connaître, de t'affirmer et en même temps de savoir avec qui tu as affaire. Moi, je suis d'origine grecque et mes grands-parents sont syriens.
D'accord.
Donc, j'ai un faciès qui peut en dire une erreur parce que les Syriens et d'autres pays, d'autres îles, ont subi les croisades et ils se sont mariés entre eux, ils sont restés sur les îles ou sur les montagnes. Ça a donné parfois certaines tares congénitales. Donc moi, j'étais plusieurs fois en Syrie pour travailler sur un projet de personnes handicapées à cause de la relation très étroite dans les familles. Et donc, peut-être que moi, je suis tarée aussi, mais bon, que je pense qu'il vaut mieux être tarée comme moi et utiliser mes neurones comme moi, je les utilise, que comme certaines personnes. Et alors, ce que je vais dire, je vais citer un autre chanteur que j'aime bien, on a la couleur que le soleil nous donne. Donc, devinez qui c'est Laurent Voulzy.
Ah, Laurent Voulzy, Laurent Voulzy qu'on diffuse régulièrement dans Radio Maritime, mais qu'on ne diffusera pas aujourd'hui.
On a la couleur que le soleil nous donne, on ne doit pas être réduit ni à son sexe, ni à sa couleur de peau, ni à ses origines, mais c'est parce qu'on n'a aucune prise là-dessus, on a une prise sur son comportement, bon ou mauvais, qu'on peut améliorer ou pas et accepter les critiques.
Merci Monica, eh ben, reste avec nous parce que tout à l'heure on va écouter une deuxième capsule de stéréotypes. Et c'est le récit de Kaman qui parle notamment de discrimination lorsqu'on arrive en Belgique et qu'on vient d'un pays étranger. Donc ça, on entendra aussi à la fin et donc ça va faire des liens avec ton discours. Mais je voudrais, est-ce que tu veux bien me rendre un petit service, Monica, et passer le micro à la personne qui est derrière toi.
Oui, je vais juste faire les liens avec l'histoire.
Alors rapidement,
Bon, mais dans les années 80, les familles monoparentales n'étaient pas considérées comme maintenant. Donc, une femme qui avait choisi ou pas d'être parent seul, eh bien, un enfant n'était pas égal à un autre. On disait qu'un enfant seul est plus favorisé que de familles nombreuses. Donc, les allocations étaient beaucoup plus basses pour les enfants uniques, même s'il n'y avait pas de pension alimentaire, même si la maman vivait dans une misère noire.
Ouais.
Et ça augmentait au fur et à mesure avec le nombre d'enfants. Et donc là, il y a déjà un stéréotype, une discrimination.
Ouais.
Et bravo aux femmes courageuses qui ont su élever par choix ou par obligation des enfants seuls. Voilà.
Maintenant, c'est
voilà. Fini pour aujourd'hui.
Mais c'est merci, Monica. Merci pour ton témoignage. Alors, c'est pour Iris. C'est pour toi, Iris. Je voulais savoir, tu es venue avec quelques personnes, dont Salvo. Qu'est-ce que vous faites en ce moment avec tous ces petits groupes?
Qu'est-ce qu'on fait à Uccle? Nous, on est toujours au CPS.
Ouais.
Déjà, ça, c'est quelque chose qui donne de la stabilité. Hein,
bah oui.
On est au CPS. Mais au CPS, on fait beaucoup d'activités culturelles, hein, d'actions. On a un projet qui s'appelle Tram 51. Où on fait des promenades à la découverte de ce qu'il y a autour du trajet du tram 51. C'est un projet qui était né à la base pendant le Covid.
D'accord.
Parce qu'on ne savait plus se rencontrer.
Ah
et
oui.
Donc, comme on est quand même un peu déviant, on a décidé, les participants, on a décidé de se rencontrer. Le seul lieu où on pouvait se rencontrer, c'était dans le tram.
Avec un masque et tout ça.
Avec masque, distance, évidemment, toujours
sûr.
Dans le respect des règles. Et donc, on se rencontrait dans le tram 51. L'idée, c'était de se rencontrer dans le tram 51 et de faire des promenades pour continuer nos activités culturelles. Et de ça, on a décidé éventuellement d'en faire un projet. On essaie de le mettre en place, mais comme il n'y a plus de Covid...
Oui, ça n'a plus de sens.
Ça n'a plus beaucoup de sens, donc on verra. Et puis, alors, l'autre projet qu'on mène, et ici, il y a des participantes à ce projet, c'est un groupe de deux femmes pour les femmes. Donc, via la culture, comment renforcer la présence et la parole des femmes dans l'espace public. Et on fait ce projet en collaboration avec Article 27. On en est très fiers parce qu'en fait ça fait un moment qu'on voulait faire un projet que pour les femmes et on n'y arrivait pas parce que
il y a toujours des mecs qui s'installent au bout d'un moment.
Voilà, et surtout les décideurs sont plus des hommes que des femmes.
Ouais.
Donc comme au CPS, à la commune, etc., nous on doit quand même demander l'accord des décideurs, des supérieurs hiérarchiques, je dirais même. Non,
c'est... Ouais.
En fait, on nous disait toujours que c'était discriminatoire de faire des activités que pour femmes, un projet que pour femmes. Après des années, on est arrivé, grâce à ma collègue qui va peut-être parler, qui est assistante sociale et donc qui a des bases de sociologie de terrain, on est arrivé à démontrer que dans le service culture du CPS d'Uccle, presque le 80% des demandes d'aide culturelle sont faites par des femmes.
C'est parce que les mecs, ils n'ont pas le temps.
Très probablement.
On n'a pas le temps de s'amuser.
Mais c'est sûr que ça démontre de façon assez claire le fait que la charge aussi, la charge mentale qu'on connaît déjà très bien des femmes, des mères, mais des femmes en général, est énorme. Mais même au niveau de la vie culturelle, donc de la participation au discours public, à la vie active, parce que c'est via la culture hein, aussi qu'on prend la place, c'est de nouveau sur les épaules des femmes. Et là, nous, on en a l'épreuve. 80% des demandes d'aide culturelle au CPS d'Uccle sont faites par des femmes. Et sur ça, peut-être, je peux passer la parole à ma collègue assistante sociale qui s'occupe effectivement de recevoir tous les jours ces personnes, ces dames, ces femmes qui font demande pour que leurs enfants, pour qu'elles-mêmes puissent participer, puissent exercer leurs droits.
C'était parfait jusque-là, Iris.
Leur droit culturel.
C'était...
Mince, il n'y a pas une fois que j'y arrive.
Je trouve qu'en un an, il y a eu des progrès assez impressionnants.
Le R, en plus, pour les Italiens, c'est difficile.
C'est vrai qu'ils sont...
Et donc, je passe la parole à
non,
Emily.
Alors, Salvo veut la parole, mais tu... Non, c'est le moment des meufs, Salvo. Salvo.
Allez, un seul mot, Salvo.
Un seul mot.
Ma sœur est gay. à cause d'une mauvaise expérience sentimentale. Ça n'est pas empêché.
Merci.
Pendant 20 ans d'être un très bon maître d'école dans une école primaire et un très bon artiste.
Merci voilà. Salvo, on va passer la parole. Moi, j'aime bien les ponctuations comme ça. Alors, la collègue, elle va déjà se présenter, se dire son prénom.
Mais bonjour, je m'appelle Émilie.
Ouais.
Et je suis assistante sociale à la cellule culture du CPS Ducle.
C'est voilà. Vrai ce que Iris raconte sur le 80% là ?
Ouais.
C'est vrai ?
On est à 70, mais c'était là, en 2022, c'était 79 exactement. Ah ouais. Et une chiclette.
Iris ?
Mais je pense que ça a un peu augmenté un peu parce que... Il y a déjà un an, on était, enfin, en 2021, c'était 75%.
Mais donc ça monte,
ça augmente à chaque fois. En fait. Donc voilà. Mais je voulais d'abord te remercier pour ton témoignage parce qu'en fait, je ne me suis jamais vraiment rendu compte et je ne me suis jamais vraiment posé la question sur ce, sur l'avortement en fait. Et donc ça m'a un peu chamboulé, mais dans le bon sens, je veux dire, parce que c'est quelque chose que j'ai pas. Que je ne me suis jamais vraiment posée, dans mon entourage, je n'ai pas encore connu, ou quelqu'un n'a peut-être pas encore osé aussi non plus aborder le sujet. Donc, merci pour ton témoignage.
Ouais, c'est ce que je raconte dans la capsule, pardon, petite parenthèse, que j'étais surprise quand la plupart du groupe a levé la main. Mais là, j'ai compris qu'il y avait un problème. Parce que si dans un groupe de militantes féministes qui se déclaraient féministes, on n'avait jamais partagé l'expérience, c'est parce que ça veut dire que, en fait, c'est clair. Alors, je ne dis pas qu'il faut aller se présenter à quelqu'un et dire bonjour, je suis Serena et je fais un avortement. On est d'accord. Mais en fait, moi, j'ai découvert, grâce à mon travail sur la question, que ma grand-mère avait fait un avortement clandestin à son époque. Bon, je savais déjà de ma mère, mais j'ai pu partager avec ma mère, du coup, cette expérience. Et en fait, ça fait du bien. Oui. Voilà.
Oui, ça se sent dans ce que tu dis que ça te fait du bien. Et en fait, je pense que le fait aussi, du coup, que tu as osé en parler avec... et qu'en fait, tu t'es rendu compte que la plupart du groupe, en fait, était un peu aussi... a vécu aussi ce même... ça a dû un peu te soulager,
non ? Les chiffres, c'est plus ou moins... En France, on femme sur deux.
Ah oui, d'accord. J'ai pas du tout les chiffres en tête.
Ouais.
Donc...
ouais.
C'est quand même beaucoup. Oui.
Et en fait, en France aussi, ça devient problématique parce mm-hmm. Ça devient compliqué aussi. Bon, on a des cas comme la Pologne où c'est vraiment...
Mm-hmm.
Aux États-Unis, ouais.
Mm.
Mais c'est l'avortement avec une pilule ou... Pardon. Bah, juste pour la précision, c'est un avortement avec la pilule ou un avortement où il y a une intervention.
Le mien ?
Non, mais en général, parce que moi j'ai entendu votre témoignage et j'étais très touchée. Et, bon, ça reste quand même un sujet tabou. Je me souviens dans mon enfance, il y avait pas mal de filles de ma classe qui ont fait un avortement, mais quand même, bah, c'est bien d'en parler. Surtout, oui, vu ce qui se passe maintenant, il y a même Biden qui peut-être va être voté parce que lui, elle est pour l'avortement, mais bien sûr, Trump s'y oppose. Mais non. Mais ce pourcentage, quand même, c'est un sur deux, c'est un peu c'est plus haut que j'aurais pensé.
Bah, la question de la pilule, c'est intéressant parce que justement, c'est un peu une polémique qui est sortie la semaine passée en France. Parce que justement, il y a une pénurie de pilules abortives.
Mm-hmm.
Et non, pas de pilule abortive en fait.
Une pilule que tu peux prendre
pour avorter.
L'avortement aujourd'hui, bon, à mon époque par exemple, il y a 10 ans, c'était illégal en Italie, donc beaucoup d'Italiennes allaient en Suisse pour pouvoir avorter avec des pilules parce que sinon c'était par intervention. Ce que je parle pas dans la capsule, c'est que moi après j'ai eu une énorme hémorragie et j'étais très 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 mal parce que j'ai pas eu de suivi médical en fait. Parce que c'est quand même une intervention en anesthésie générale très lourde à supporter. Chose que la pilule, je dis pas que c'est léger, mais ça reste un peu moins invasif comme méthodologie. Et voilà, et dans un pays comme la France, qui se proclame laïque, moderne, etc., ben, aujourd'hui, il y a des difficultés et des listes d'attente très très longue pour pouvoir accéder à des pilules abortives. Ça veut dire qu'une femme qui décide d'aborter doit peut-être attendre 1, 2, 5 semaines pour pouvoir accéder à une pilule. Et toute femme qui est enceinte et qui veut avorter, c'est qui est très... En fait, chaque jour, c'est terrifiant.
Ouais, c'est ça. Hein.
On veut le faire, le jour même. Et voilà.
Ouais. Alors, je voudrais maintenant passer la parole à... Ah oui, alors, il fallait encore terminer avec...
Bah oui, du coup, je ne sais plus où je devais en venir.
Je ne sais plus non
parce
plus.
Que j'ai...
Mais c'était très bien aussi d'avoir donné ton ressenti. Sur
oui, mais en fait, je n'osais pas trop parce que j'avoue que je ne suis pas très à l'aise. Mais voilà, j'ai vu que tout le monde s'était un peu... Et donc voilà, j'ai osé prendre la parole. Bah oui, pour en revenir peut-être un peu à Artemis, du coup, ouais. Au projet qu'on a lancé avec Iris maintenant depuis plus d'un an. Donc oui, c'est vraiment une réalité de terrain à la base. Et ben voilà, on se voit tous les mois avec les femmes. On discute un peu de... Voilà, là, ça doit venir d'elles, en fait. Donc c'est un peu partir de leurs besoins et de ce qu'elles veulent partager. Et ici, ben voilà, on va mener normalement à partir de septembre un projet à plus long terme qui va être un projet plus culturel. On a dû faire des phases tests parce qu'on n'arrivait pas trop à se mettre d'accord sur le domaine artistique. Donc on va avoir un projet à plus long terme après, pardon. À partir de septembre, normalement, ça va tout doucement se lancer.
Et tes voisines, là, sont des participantes ouais. à Artemis ?
Est-ce que peut-être, Miari et Miné.
Miari, peut-être, je ne sais pas si tu veux dire un mot sur Artemis, comment tu le vis ? Est-ce que c'est des moments... il y a plein de micros qui lui arrivent. Tu peux choisir.
En fait, je le vis bien. Depuis qu'on a commencé la rencontre avec les Artemis, je dirais ça va. Parce qu'au début, quand je dépose mes enfants à l'école, je retourne à la maison vu que je vis seule avec mes 3 filles. Mmh. Et je n'avais pas d'activité, je ne savais pas quoi faire. Mais depuis qu'on a commencé cette rencontre, et au fur et à mesure, j'arrive à me libérer, à parler. Comme si... Ce ne sont plus des inconnus pour moi. Avant, j'étais vraiment renfermée avec elles. Mais maintenant, quand je suis avec elles, je parle comme si j'étais avec mes amis. Donc déjà, ça, c'est un très bon point pour moi. Mmh. Et là... C'est, moi je dirais même que c'est une association parce que on partage beaucoup de choses ensemble, on se donne des idées, on nous aide aussi. Des fois il y a des aides qui viennent qui ne sont pas forcément ceux de nos enfants ou pour les aides. Moi par exemple, j'ai eu beaucoup de contacts depuis qu'on a commencé cette rencontre par rapport à ma situation et tout. Donc, je dirais Dieu merci.
Que ça continue alors.
Oui, ça continue. Ça continue.
C'est vous.
Voilà.
Merci. Je voudrais, alors, parce que bon, le temps nous est compté, on a encore une capsule à écouter, on a beaucoup de monde. Alors, Iris me dit non, il faut donner la parole. Moi, je veux bien encore passer le micro à quelqu'un. Iris, c'est toi qui décides au bout d'un moment. Oui.
Ok, je suis très contente avec Artemis, avec Émilie et Iris. C'était très important pour nous. Merci beaucoup.
Non, merci.
Faut pas dire merci.
Non.
Tell your story.
Who you are?
It's very important for us. To become together, that kind of activity, and that's why thanks to
who you are.
Qui
present
est-vous?
Yourself.
What's your name and your
name? I'm from my name is Mine, and that's all, actually enough.
Bonjour.
Thank you so much. Merci beaucoup pour Artemis, Émilie et Iris.
Thank you, Mine.
Je peux ajouter une petite chose à la fin. On a parlé beaucoup de femmes, mais en fait, pour moi, c'est très important de se souvenir que c'est quelque chose qu'on vit avec les hommes aussi. Oui. Et dans notre projet, on a vraiment essayé de trouver des témoignages d'hommes, parce que pour les hommes, c'est très compliqué aussi. Ils ne savent pas où se mettre. Oui. Donc, c'est très intéressant que cette parole ça s'ouvre aussi entre les deux genres et que ça ne reste pas qu'un souci et une question des femmes. Parce que ce ne l'est pas. On le fait à deux.
Merci Serena. Alors on va passer le micro à Marianne maintenant. Marianne qui va mettre le boxon dans Radio Maritime.
Oh, bon, merci.
Bah oui, Marianne.
Ah bah merci Thibaut.
Bah quoi, c'est pas
oui.
le cas.
Oui, c'est ma spécialité de mettre le boxon. Mais
comment ça va déjà, Marianne?
Un peu de légèreté, oserais-je dire. Mais moi, j'étais vraiment intéressée par les propos de Serena. Et en étant femme, je ne suis pas maman, mais je peux malgré tout mesurer ce que ça doit faire à un moment donné dans un parcours de femme de devoir prendre ce genre de décision. Et je trouve ça très courageux et probablement, dans le fond, la meilleure des choses à faire. Et donc, si j'ai bien compris, Serena, au jour d'aujourd'hui, tu es, enfin, ça c'est aujourd'hui, tu es maman. Donc ça, c'est merveilleux aussi. Ça veut dire que...
Oui.
Voilà. Et il ou elle s'appelle comment ?
Alma.
Alma.
17 mois.
Ah, voilà.
Elle est magnifique.
Et... voilà. Et eh bien, en fait, moi, je suis là pour parler. Je suis en fait chargée de projet de l'ASBL Bras Dessus, Bras Dessous. Pour faire vite le petit lien, donc c'est une ASBL qui est forestoise, mais qui a fait très vite des petits en région bruxelloise à Uccle et Anderlecht. Et puis dans le Brabant Wallon aussi, on a 7 ans. Et notre travail au quotidien, c'est de, en partenariat donc avec les autres acteurs, c'est de rencontrer des personnes âgées, des aînés isolés, qu'on appellera des voisinés, et de les mettre en lien avec des bénévoles qu'on rencontre aussi, qu'on appellera les voisineurs. Et donc, moi, je rencontre, par exemple, Georgette, qui se sent seule et qui me dit un petit peu sa solitude, ses centres d'intérêt, ce qu'elle aimerait faire. Je fais la même chose avec Janine. Et puis après, je me dis, mais tiens, mais voilà, Georgette irait bien avec Janine. Et donc, je crée la rencontre, je fais un petit matching. Et c'est des petits duos qui se voient une fois par semaine. Pour être bénévole, on demande d'avoir 18 ans, mais j'ai des bénévoles qui sont encore scolarisés, pour autant que les parents soient d'accord. Et on appelle aîné une fois 60 ans, mais voilà, ça reste un âge théorique. Je suis là aujourd'hui pour parler de Radio Mouette.
On est à Radio Maritime et voilà. C'est pas très loin de Radio Mouette.
Et donc, le projet de Radio Mouette, dont Louise, qui est à mes côtés, et Anne-Louise, qui n'est pas là, qui est souffrante. On pense à toi, Anne-Louise.
Big up.
A été mené pendant 5 après-midi au sein de notre moment collectif qu'on a tous les mardis de 2 à 4 dans un centre senior rue Van der Kinderen, nos mardis gourmands. Eh bien, le Radio Mouette, c'est invité chez nous. Est-ce que Louise, tu veux dire un petit mot?
Oui, bah du coup, on est venu avec Anne-Louise, donc qui est en gros à la tête de ce projet Radio Mouette. C'est elle qui a imaginé ce concept
d'émission. Une web radio
pour les aînés. Et donc nous, notre objectif et ce qu'on a fait dans ce projet, c'était que on est donc venu au Mardi Gourmand pendant tout le mois de février, pour un peu voir avec les aînés présents et présentes au Mardi Gourmand ce qu'ils imaginaient, comment est-ce qu'ils voudraient s'exprimer, ou en tout cas les choses qui leur semblaient intéressantes dans ce projet. Et donc, de ces ateliers, de ces Mardis Gourmands où on a mangé plein de gâteaux de Saint-Olé, hyper bon.
Sûr qu'on ne perd pas du poids le mardi.
Non, ça c'est sûr. En fait, il y a deux les petits concepts d'émissions qui sont nés. Il y a d'abord donc la Gazette Locale, mais je ne sais pas si on aura...
Je ne sais pas si on aura le temps d'écouter la Gazette Locale.
De toute façon, ils pourront l'écouter demain sur Radio Panique.
Oui, ben oui.
De 9 à 11h30.
De 8h.
Pas du tout.
8h à 11h.
Pardon, 8h à 11h. Voilà. Et du coup, donc oui, voilà, un projet qui s'appelle Gazette Locale, où en gros, on a fait un peu je trouve pas le mot. On a recensé différents lieux, un panel de lieux différents sur Uccle qui sont chers aux aînés avec qui on a travaillé. Donc il y a des petits restos, des piscines, ce genre de choses. Et on a aussi fait une balade immersive tous ensemble dans le parc de Wolvendal, qui est donc en fait une balade qu'on a recréée sur base des promenades que font les aînés lorsqu'ils ont un petit peu de temps libre. Et donc ça, vous aurez le temps de l'écouter aussi demain.
Demain de 8h à 11h, Radio Mouette.
Ouais.
Prend les commandes de Radio Panique, parce que Radio Mouette, c'est un projet de web radio qui verra peut-être le jour complètement d'ici un an, peut-être pas. Peut-être ça ne verra jamais le jour, on ne sait pas. Mais en tout cas, toute cette année, on expérimente des choses. Et on diffuse régulièrement sur Radio Panique. Et donc demain, c'est de 8h à 11h. Marianne, encore
oui,
un mot.
Et peut-être ajouter que si on n'a pas l'occasion d'écouter demain, il y aura d'autres diffs. Et puis sur le site de Bras Dessus, Bras Dessous, www.brasdessusbrasdessous.be, on va certainement mettre les podcasts qui seront écoutables à tout moment et partageables surtout avec vos grands-mères, vos voisines, vos tantes, etc. Parce que c'est vrai que ça donne envie, en fait. Les aînés qui ont parlé, c'est Christine qui parle d'un glacier où elle va depuis qu'elle est petite. C'est Hélène qui parle des noms des allées du parc du Wolvendal. C'est une autre. Ça donne vraiment envie. Et il y a déjà des aînés qui étaient présents en Mardi Gourmand. On est une quinzaine tous les mardis qui ont été faire la petite balade en disant j'ai été. Et c'est fantastique. C'est à ça que ça sert, en fait. Voilà.
Et alors, évidemment, on parle aussi de tous les aspects pratiques des lieux. Par exemple, si je prends la Gazette locale, ou la balade immersive, c'est que tout est pensé aussi et pour les aînés. Donc, c'est-à-dire qu'on parle de l'accessibilité des lieux, on parle des choses à faire.
Toilette ou pas, avec des escaliers ou sans escaliers.
Des trucs auxquels on ne pense pas forcément si on n'est pas encore aîné ou si on est aussi invalide, parce que ça vaut aussi pour les personnes qui ne sont pas valides.
Et grâce à ton bon travail, Louise, je vais terminer par ça, même l'aîné qui est isolé, qui ne sort plus de chez lui, en fait, il ferme les yeux. Radio Mouette, Anne-Louise et Louise ont vraiment créé un paysage sonore avec des oiseaux, avec des petites clochettes, avec des voix très agréables. Et voilà, c'est déjà merveilleux.
Merci. Voilà, c'est demain.
Merci Thibault.
Sur Radio Panique.
Exact.
Un projet de Brati Bratsou en partenariat avec le Xara. On va revenir maintenant à Stéréotype, les capsules de la concertation. On va écouter une deuxième capsule, celle de Kaman. Là, donc la huitième capsule en tout. Huitième. Très bien. Un petit mot quand même, on va terminer avec toi, Mélanie, de la concertation. Ça va?
Oui, du coup.
Kaman n'est pas là.
Kaman n'est pas là, n'a pas pu venir malheureusement, mais on peut écouter son récit qui est aussi accessible, qui sera accessible sur le site de la concertation.
Alors je pense qu'on sera trop tard pour entendre toute la capsule de Kaman, qui est un peu plus longue que celle de Serena, mais où est-ce qu'on peut les écouter toutes ces capsules sonores finalement?
Donc sur le SoundCloud de la concertation, qu'on peut retrouver du coup sur notre site internet.
Des capsules sonores, donc basées sur vos récits, qui ont été réalisées, captées et montées par Comme un lundi à SBL, et avec l'aide aussi du Xara. Voilà. Ça va, Sarah, d'autres choses à dire?
Merci à vous aussi.
Merci à tout le monde. Parce que c'est maintenant qu'on se dit au revoir, Salvo. Parce qu'on va écouter un son et puis après l'émission, il sera fini. Ça va?
Ok.
Merci, Salvo.
Merci.
Merci surtout à Sarah et à toi.
Thibaut.
Ouais. Parce que vous étiez super lors de la prise de son, c'était vraiment trop cool.
Merci. Et on se plonge dans le récit de Kaman, on dit et rendez-vous demain à 8h sur Radio Panique pour Radio Mouette. Merci à tout le monde, merci à Louise, merci à Maï, merci à Sarah, merci à Mélanie, tous ceux qui ont aidé à préparer cette émission. Et il y en a qui n'ont pas pu parler, qui repartent frustrés, voilà. Désolé. Voilà. On reviendra à Uccle.
Un jour, il y avait une réunion dans la famille, c'était pour parler de mariage où tout le monde doit prendre part, tous les fils de la famille doivent prendre part. Et je suis allé pour participer comme tous les autres, mais malheureusement pour moi, vu que j'étais élève, on m'a refusé de rentrer pour participer à cette réunion-là, que ça n'engage que les traditionalistes et non les étrangers. Moi, je suis considéré comme étranger du fait que je vais à l'école, j'apprends à lire, à écrire. Donc, pour eux, je suis devenu un homme moderne, un homme d'Occident. Il n'y a pas ma place dans cette réunion-là. Vous écoutez Stéréotype. Voici mon récit, il s'appelle Black Blanc. Moi, je m'appelle Kaman, je suis d'origine guinéenne, donc de la Guinée-Conakry. Je suis issu d'une minorité qu'on appelait les Diakanké, c'est très très minorité, conservateur également. Bref, et moi, étant issu de cette minorité, il était question de me scolariser. Donc cela a causé beaucoup, beaucoup de problèmes entre la nouvelle génération et l'ancienne génération. Je suis allé à l'école étrangère, je suis allé à l'école de blanc, autrement dit à l'école de colons, parce que on a des aînés qui ont fait des voyages dans des capitales de l'Afrique et qui ont vu l'impact du fait qu'ils n'ont pas été à l'école. Donc eux, ils veulent que nous soyons scolarisés. Ils ont essayé de faire comprendre les parents pour leur dire que maintenant, la vie d'aujourd'hui, franchement, il faut amener les gens à cette école. Et les parents ne voulaient pas. Mes parents n'ont jamais, jamais apprécié l'école étrangère, c'est-à-dire, comme ils appellent, l'école des Blancs, autrement dit, l'école des colons. Amener les enfants dans cette école, c'est de les préparer à se révolter contre la culture locale, contre la tradition, les coutumes locaux. Donc du coup, il n'en est pas question d'amener ces enfants dans cette école parce qu'ils deviendront des bandits. À un certain niveau, s'il y a une bataille entre un parent et son aîné, il revient aux parents, aux sages, de s'incliner. Parce que pour lui, il va mourir aujourd'hui et demain, il ne sait pas. C'est vrai que personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Mais chez nous, les parents se familiarisent beaucoup à la mort que les jeunes. Ils vont dire, c'est mon héritier, donc moi je suis à la fin de ma vie, je suis obligé de le laisser. Parce que c'est demain celui qui va diriger. Et ils nous ont laissé d'aller à l'école. Il n'y a pas ouvertement que j'allais partir à l'école. Mais plutôt, c'est l'aîné qui m'a pris la main et qui m'a amené à l'école, qui m'a inscrit. Sous les yeux impuissants, désormais, du papa. Bon, je commençais l'école, je pense que si j'avais 8 ans. J'étais curieux de savoir qu'est-ce que c'est cette école. J'étais curieux de voir. Et surtout que je ne voulais pas que mes amis aillent et que moi, je n'y vais pas. Et demain, je les entends parler le français. Voilà, nous, on était contents de partir dans cette école. Franchement, on était contents. Non seulement le titre élève, on était contents. Donc, quand on est venu, l'instituteur aussi, vu l'atmosphère qu'il a, il nous promettait, il dit, ouais, vous allez devenir quelqu'un, vous allez devenir ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça, voir le président de la République. Waouh, nous, on rêvait. Moi, la première fois que j'ai touché un livre, j'ouvre le livre, je vois dedans, je ne sais pas lire, mais voir seulement les images, waouh, c'était un truc de waouh, parce que je ne connaissais aucun autre livre avant si ce n'était pas le Coran. Et le Coran, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de dessin dedans. C'était de l'écriture sainte qu'on la comprend avec respect et obéissance. Pendant toutes mes études, je ne m'entendais pas bien avec la famille, avec les... Bon, en Afrique, quand on dit la famille, ce n'est pas le papa et la maman, mais plutôt c'est tout le village qui compose la famille. On était maintenant stigmatisés, on était maintenant mis de côté, on nous appelait des Blancs. Donc du coup, on a été harcelés dans notre propre famille, s'il faut dire comme ça. La septième année, l'école secondaire, si tu veux, il n'y a pas ça dans le village. Donc, on était obligé d'aller faire ça dans la grande capitale. Bon, je suis allé. J'ai un cousin lointain qui habitait à la capitale. Donc, lui, il était content de m'accueillir chez lui. Donc quand je suis venu, d'abord, la première des choses, c'était non seulement la première fois de rentrer à la capitale, mais aussi la première fois de voir d'autres élèves qui ne parlent pas de ma langue. Voilà, là-bas à Conakry, on parlait la langue Soussou. La géographie, ce n'est pas la même chose. Les habitats au village, je suis habitué à la case, et puis les poules, les moutons, les vaches. Et là, c'était des voitures, des motos, des vélos. Donc du coup, même pour traverser d'abord la route, c'était un problème pour moi. Donc je regardais de gauche à droite et je traversais en courant. Donc du coup, on nous appelait des Hareman à l'école. Donc les Hareman, ça veut dire les villageois, les brousseurs. Donc nous, on nous appelait comme ça. Donc petit à petit, de collège, je suis allé jusqu'au lycée. Au lycée, non, là, c'est là que j'ai compris honnêtement la position des parents. j'ai compris entre élèves qu'on n'a pas de même éducation. Parce que moi, je fais les sciences sociales. À la base, je voulais faire l'avocature. Mon papa s'est opposé. Donc, du coup, OK, ça va. Au lycée, je fais les sciences sociales où on enseigne de la pénétration coloniale en profondeur. Je commence à sentir le poids de la colonisation sur mes ancêtres. Et ça a commencé à me mettre mal à l'aise. C'est là que j'ai compris, en fait. Mais j'ai compris aussi qu'eux aussi sont dans l'erreur parce que pour lutter une chose, il faut le connaître. S'il faut changer des choses, ce n'est pas à l'extérieur qu'il faut le changer. Il faut rentrer dans le système. C'est dans le système qu'on peut changer quelque chose, pas à l'extérieur du système. Donc, je n'aurais pas été à l'école, je ne l'aurais pas su. Donc, j'ai quitté la Guinée le 27 octobre 2012. Bon, en venant en Belgique, j'ai dit, OK, ça va, on m'a appelé les blancs. Maintenant, je m'en vais chez les blancs. Donc là-bas, je serai bien accueilli parce que j'étais à l'école, je sais lire, je sais écrire. Waouh, OK, voilà. Donc, une fois en Belgique, voilà, pour moi, je suis arrivé à un endroit où je me sens bien, où je suis arrivé à un endroit... Bon, je suis venu en tant qu'homme, entre guillemets, civilisé. Parce que si on nous a dit en Afrique qu'on n'est pas civilisé parce qu'on ne savait pas lire et écrire. Mais maintenant, moi, je sais, de A jusqu'à Z, je sais écrire mon nom quand même. Quand je suis venu en Belgique, on me dit, non, mec, tu sais quoi? T'es pas blanc, mais tu es black. J'étais étonné, je dis, non, je me suis dit, les gars, ne me refusez pas, parce que, bon, chez nous, si on m'appelle blanc, donc vous acceptez-moi. Mais c'est en ce moment-là, maintenant, que je me suis senti que, je suis black, et même si j'étais à l'école, et même si j'ai fait mes universités, et même si je parle français, et même si je sais lire et écrire, et je reste black, mais après, je me dis, maintenant, je suis alors à la recherche de mon identité. Si chez moi, je suis blanc, et chez le blanc, je suis black, alors qui suis-je? Ça m'a travaillé à un moment donné. Je me dis, dans quel camp maintenant je vais prendre? Est-ce qu'il faut que je rejette les parents pour leur dire que franchement cette école est maudite parce que moi j'ai passé tout mon temps là-dedans? Je ne suis pas accepté non seulement dans ma famille, mais quand je suis venu encore chez mes maîtres, et ils ne m'ont pas accepté. Alors, ce n'est pas l'école qui est maudite, et même si elle est maudite, c'est moi-même maintenant qui. C'est le fruit de cette école maintenant qui se trouve sans identité. On m'a amené au centre fait d'asile de Woluwe-Saint-Pierre. En 2014, j'ai reçu mon statut de refusé politique. Donc une fois que tu reçois, tu dois faire 2 mois pour chercher un appartement. Et moi, ce n'était pas facile parce que tu demandes l'appartement, on demande le fichier de paye, dès que tu dis CPS, c'est mort. Donc du coup, bref... Je suis sorti en 2014 et j'ai pris mon premier appartement à Ixelles où je suis resté pendant 3 ou 4 ans comme ça. De là, j'ai fait une formation d'animateur et j'ai commencé mon premier boulot de la même commune aussi parce que j'ai commencé ça via CPS. Et quand j'ai terminé là-bas mon contrat, j'ai travaillé aussi à Kokelberg. De Kokelberg, maintenant, je suis revenu en 2018 à Maison des Jeunes de Terbeek à La Clé, où je travaille de 15 janvier 2018 à nos jours. Dans Sous l'orage de Sédou Badian Kouyaté, il dit ceci à son fils. Je t'ai envoyé à l'école pour que tu saches lire et écrire et non pour devenir blanc. Beaucoup de blancs sont unanimes avec moi sur certaines choses, grâce à l'école, grâce à la science. Je crois à la science et aussi ils croient à la science. Donc les blancs qui me considèrent comme black, je pense qu'ils le font par la peau sans voir la tête. Et je pense que c'est là qu'ils sont un peu dans... C'est ce qui est un peu dommage, quoi, pour ne pas dire une erreur. Les oiseaux de même espèce volent ensemble. Donc c'est le message que blanc, peu importe, black, peu importe. Ce qui importe, c'est l'homme, c'est l'humanité. Donc, pour moi, on est tous des humains, on est tous des hommes, on a des pieds, eh bien, on réfléchit, on raisonne. Donc, pour moi, voilà, la couleur ne pose pas de problème. Mais cela ne veut pas dire que c'est de telle. La méchanceté également n'est pas communautaire, il est plutôt individuel, qu'on voit les choses de façon individuelle et non communautaire. On ne peut pas sanctionner toute une communauté à travers d'un individu. Ça, c'est des stéréotypes qui ne sont pas, pour moi, fondés.